Espagne, et puis est revenu d'Espagne, a servi comme pasteur à l'église de Chibougamau pendant quelques années, et maintenant il se prépare à un nouveau ministère en Amérique centrale, et il est venu nous partager cela. Monsieur Francis, c'est le papa de Mélodie, pour ceux qui connaissent Mélodie, qui est au Honduras et qui œuvre avec les enfants, c'est son papa et sa maman qui sont avec nous ce matin. Et M. Francis va nous apporter le message de la parole et aussi nous présenter ce que le Seigneur a mis sur son cœur, son appel pour l'Amérique centrale. Alors, je traite maintenant M. Francis à venir. On peut l'accueillir ensemble. Merci.
Ah, bonjour. J'ai donné un défi un peu spécial à Suzy qui s'occupe des diapos parce que j'ai pas donné de plan, surtout pour cette partie-ci. Alors, il va falloir qu'elle devine un peu, là, comme suivre. Mais je vais essayer d'être clair avec mes indices. Alors, quand j'avais 10 ans environ, une été, j'étais dans un camp de vacances pour garçons. C'était à notre atelier. Maintenant, je venais pas d'une famille croyante. Et je donne ça comme arrière-plan pour que vous me compreniez. Et c'était un camp d'amusement pour les garçons, pour les enfants. Et à un moment donné, durant ces deux semaines-là, quelque part, il y avait un monsieur qui parlait aux garçons. Et puis, il nous a posé une question. Il dit, est-ce qu'il y en a parmi vous autres qui avait une idée de qu'est-ce que vous aimeriez faire quand vous êtes adulte? Le petit Johnny lève la main tout de suite. Il dit oui. Il dit, moi, je sais ce que je vais faire. Et je vais voyager d'une place à l'autre pour enseigner les gens au sujet de Jésus. Les autres me regardent un peu bizarre. Moi-même, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai dit une niaiserie comme ça? Vraiment, d'où est-ce que c'est sorti, celle-là? Je pensais à ça dernièrement, à cet épisode, et je me suis dit, bien, c'était réellement prophétique. Parce que même si je ne connaissais pas Jésus dans le temps, et c'est rien que ça que j'ai fait. Depuis j'ai 16 ans, que le Seigneur a envahi ma vie et que le ciel descendit, la gloire remplit mon âme, bien, je n'ai pas été capable de faire d'autre chose que de parler pour lui. Et vraiment voyager d'une place à l'autre, 2 ans au Nouveau-Brunswick. 1 an et demi au lac Saint-Jean, de nouveau. 8 ans à Chibougamau. 18 ans en Espagne. De retour au Québec, 3 ans à Boisbriand, Sainte-Thérèse. 4 ans de nouveau à Chibougamau. Et maintenant, bien, on fait des projets, Lise et moi, on fait des projets pour aller au Honduras, pour vivre au Honduras et travailler en Amérique centrale avec Leaders for. Leaders for ou Leader pour, c'est une organisation commencée à l'intérieur de nos églises, de l'association, quelques pasteurs qui se sont intéressés à aider premièrement aux gens d'Honduras, aux pasteurs ou aux leaders de Honduras, avoir une formation. Maintenant, c'est devenu mondial et ça fait partie de notre Fellowship International, qu'autrefois appelé FEB International. Alors, on peut continuer. Juste pour donner une idée où se trouve le Honduras, je sais que les mélodies vous l'a déjà montré, mais on peut continuer, la flèche est là. Alors, vous avez le Mexique, ensuite Guatemala, Honduras et El Salvador, ensemble, Nicaragua, Costa Rica, Panama, et de là, on s'en va en Amérique du Sud. OK, alors... Alors, c'est ça, les besoins de l'Amérique centrale. Ici, quand on va au Honduras, de préférence, en descend à l'aéroport de San Pedro Sula. Il y a 2 aéroports internationaux, et San Pedro et Tegucigalpa, la capitale. Mais, bien, c'est correct, oui. Alors, celui-là de Tegucigalpa, t'as l'impression que t'as besoin de descendre en hélicoptère, c'est une petite piste dans les montagnes, tandis que San Pedro... vous avez une piste qui fait du bon sens, c'est moins épeurant. Alors, mais dans une couple de semaines, je vais essayer cela de Tegu, puis je pourrais vous en parler plus. Ça, c'est la capitale, Tegucigalpa, qui est dans les montagnes, là. Continuez. Alors, ici, dans la ville de San Pedro Sula, qui est la place où le foyer où Mélodie travaille, était autrefois dans la ville de San Pedro Sula. Maintenant, c'est à Siguatepeque. Mais juste quelques images ici, vite faites comme ça, pour donner une idée. Il y a des beaux bâtiments, mais il y a un autre portrait de San Pedro, qu'encore, que Mélodie vous a montré, mais on va les passer un peu rapidement, juste pour vous donner l'idée. Quand je dis San Pedro, pensez aussi à tout Honduras, pensez en Amérique centrale en général, mais Honduras, c'est le plus frappant. Continuons. Cherchant dans la dompe, il y a beaucoup de misère. On peut continuer. Alors, 60% des Honduriens ont moins de 24 ans. C'est pas parce qu'il y a un si grand taux de naissance, c'est parce qu'il y a un si grand taux de mortalité. Les gens meurent de plusieurs causes. Des maladies, faute de soins médicaux. Ils meurent de violence, parce que c'est un des plus hauts taux de criminalité au monde. Jusqu'en 2008, il y a eu, j'oublie combien, de meurtres. Non, on peut rester en arrière, s'il vous plaît. Ah, bon, ben, c'est ça, oui, c'est bien. Alors, il y a eu 4473 meurtres au Honduras en 2008. Ça faisait que le Honduras, avec une population d'environ 7,5 millions de personnes, est un des taux de meurtres par personne les plus élevés au monde, d'après les Nations Unies. On continue. Alors, ça, c'est le foyer où Mélodie travaille à Siguatepeque. Et ça, c'est l'image originale. C'est plus comme ça, là, mais l'entrée originale du foyer. l'histoire de José Ramón, peut-être, je ne sais pas combien ont entendu l'histoire de José Ramón ici. Levez la main. Pas pire, la plupart l'ont pas entendu. Alors, à l'âge de 2 ans, il est arrivé au foyer après beaucoup de mauvais traitements, négligence. Il mourait de désnutrition, tuberculose, des parasites, solitaires, tout, ainsi que bien d'autres problèmes. Alors, il est allé là presque pour mourir, vraiment. On s'attendait pas à grand-chose. On peut continuer. Et le même garçon, délicat, mais pas reconnaissable. Alors, ce garçon-là, maintenant, 10 ans. Et c'était le premier enfant qu'on a commencé à parrainer après que Mélodie est allée juste pour un été. On n'a pas pu résister. Continuons. Alors, ça, c'est nos petits-enfants. Hein? Quelques-uns savent qu'on a eu notre première petite fille à Québec. Notre garçon Daniel a eu un enfant il y a 3 ans et demi, 3 mois et demi. Mais on avait déjà une gang de petits-enfants là-bas, à Siguatepeque, au Honduras. Mais quel est le plus grand besoin là-bas en Amérique centrale? Alors, c'est spirituel. Ils ont besoin de l'Évangile, ça c'est sûr. Et des fois on dit, oui, mais je lis les statistiques, et puis il y a tellement d'évangéliques, il y en a plus qu'ici. Ah, c'est intéressant. Quand j'étais en Espagne, je m'identifiais comme évangélique avant de m'identifier comme baptiste. Quand je suis au Honduras, je préfère ne même pas utiliser le mot évangélique. Parce que ça signifie tant de choses. Quelquefois, ça signifie tout et rien. Des fois, un mélange de superstition et d'arnaque, c'est incroyable avec l'évangile de prospérité. Vous savez, ces prédicateurs qui vont vers les pauvres, ils disent, vous avez de la misère? C'est parce que vous avez besoin de mettre une semence de foi, mon ami. Venez. Mettez un peu d'argent et vous allez voir comment Dieu va tout arranger, votre santé, votre vie, tout. Et vous allez avoir la prospérité. Et ça marche, la prospérité pour le prédicateur, la plus de pauvreté pour les gens. Alors, mais l'Évangile là-dedans n'est pas là. Alors, il y a beaucoup d'évangéliques qui n'ont aucune idée de l'Évangile. Okay, on peut continuer. Alors, ils ont besoin des vrais leaders spirituels formés. Continuons. De formation. Et le besoin de personnes et de matériel pour former les pasteurs. Et ça, c'est la raison d'être de Leaders For, ou Leaders Pour. Alors, continuons. Alors ici, on voit des pasteurs honduriens rassemblés pour apprendre. J'aimerais juste vous expliquer Leaders For. C'était commencé avec un docteur Hannibal Mutar, qui est un doctorat en agriculture, en tout cas, là. ingénieur agricole, c'est ça. Il est ingénieur agricole. Et puis, il a passé 3 ans au Honduras, ou travaillait dans un projet là-bas. Et il a rencontré quelques pasteurs qui lui ont partagé comment, il y a bien des années, il y avait une mission qui avait commencé des églises et tout. Et il avait établi des pasteurs. Mais les pasteurs qui n'avaient vraiment pas de formation ne savaient pas comment faire. La mission, à un moment donné, on dit ça fait assez longtemps qu'on est ici, on se retire. Mais ils n'avaient pas laissé des gens formés. Et là, les pasteurs, les ouvriers, ne savaient pas quoi faire. Ils avaient laissé un vide. Ils ne s'étaient pas reproduits vraiment. Ça avait été quelque chose de plus contrôlant. Alors, ils ont demandé à Hannibal, qui avait une formation, il utilisait dans son église, ils utilisaient les cours de build, des cours que notre Sembec utilise aussi. Et puis, ils ont demandé à Hannibal de les coacher un peu, de les aider. Alors, il a commencé avec des cours de build avec eux. Il est revenu, il en a parlé avec son église. Il a commencé à inviter un pasteur après l'autre d'aller, puis donner un peu de formation. Alors, on a commencé quelque chose qu'ils appellent Et Bill, Escuela Teológica basado en la Iglesia Local, Et Bill, E-T-B-I-L. Et puis, c'est des cours ecclésiocentriques. Et puis, après un temps, bien, en El Salvador et Guatemala, ils ont été jaloux. Ils ont dit, on veut ça, nous autres, ici. Et là, même Nicaragua et Panama sont en train de demander. Alors, voilà 5 ans, Lise et moi, on est descendus pour voir Mélodie, puis j'ai passé 5 jours avec un groupe de pasteurs. J'ai donné un cours d'études inductives de Colossiens que j'avais préparé en Espagne. C'était Bagopé, un camp baptiste au Honduras. Bagopé veut dire Bautistas gozando y pescando, les baptistes qui se réjouissent et qui pêchent. Qui pêchent, hein, le poisson, là. Ou les âmes. Alors, John Castle avait enseigné les épîtres pastorales. Alors ça ici, c'est le groupe. Alors ces gens-là, on peut continuer parce que ça va juste faire des flèches pour chacun des 4 là. Alors ça, c'est Hector que vous voyez. Hector, c'est un pasteur à Siguatepeque. Félix et puis Rob McGregor qui était le pasteur qui nous avait accompagnés. Et votre serviteur, John. Alors, Hector, à Siguatepeque, il est arrivé là-bas, à son église. Il y avait à peu près 4-5 personnes dans l'église. Maintenant, il y en a plus que 200, mais il y a aussi 9 églises, filles et petites filles. On peut juste tourner 2-3 fois ici, là. Ça, c'est le bébé le plus récent. Mais il y a un besoin des pasteurs formés. Alors, la solution, c'est quoi? Ça se trouve en 2 Timothée 2:2. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Alors, ça, c'est la raison d'être de Leaders 4. Justement, le pasteur Hector, il m'a demandé si je serais intéressé d'aller travailler avec peut-être ces églises-filles-là. Et puis, on a parlé avec la mission, et les autres, ils avaient des plus grandes idées. Ils ont dit, ben si tu y vas, il faudrait peut-être travailler avec Leaders 4, avec le Honduras, El Salvador, Guatemala. Norman et Donna Nielsen ont descendu avec nous en juillet pour regarder un peu la situation. On voit Norman ici parlant avec Hector. On va passer 3-4 jours. Au mois d'octobre, je sais pas combien ici connaissent Jacques Alexanian, mais quelques-uns, oui. Mais au mois d'octobre, Jacques Alexanian me téléphone. C'était en fin d'octobre. Il dit, John, il dit, j'ai entendu dire que tu veux aller au Honduras et que tu vas travailler avec les cours de build. Oui. Il dit, je vais à Ames, Iowa, où c'est le centre pour les cours de build. Et j'ai des fonds pour ramener 3 gars avec moi. J'en ai 2, veux-tu être le 3e? J'ai dit, je comprends que j'aimerais ça. Une semaine. Et j'ai dit, c'est quand? C'est la semaine prochaine. Alors, ça c'est Jacques Alexanian. Alors, c'est la semaine prochaine. Alors j'ai dit, mais je pense pas que ce serait possible. Mais une demi-heure plus tard, j'avais fait une coupe d'appel, je l'ai rappelé, j'ai dit, si l'offre est encore ouverte, je vais bien y aller. Alors, j'y allais. J'ai pu me rencontrer avec Félix Saldivar, qui est le coordinateur, on dit rien, de Headbuild, que vous avez vu dans le groupe tout à l'heure, que j'avais enseigné 5 ans avant ou 4 ans avant. Alors, j'ai pu m'asseoir aussi avec lui et pouvoir discuter des différents rôles et possibilités. Ils ont besoin des principes fondamentaux. Il y a des pays, par exemple, à Guatemala, on m'a dit qu'il y avait une cohorte déjà. Ah, fantastique, une cohorte! Oui, mais c'est une cohorte qui font les principes fondamentaux. Les principes fondamentaux, c'est des cours ecclésiocentriques encore débiles, mais faites au niveau du disciple, tout simplement. Et il travaille sur ça. Ça fait plusieurs. Il y a un bon nombre de ces cours-là. Le Sembec les offre aux églises qui veulent les utiliser. Mais c'est des cours qui partent de l'affirmation dans la vie chrétienne, comme croyant, qui va juste tous les aspects de la vie chrétienne, de la vie d'église et tout. Et avec un système de dialogue socratique. Alors, j'ai eu l'occasion, plus tard ce printemps, de former 9 personnes à Saint-Félicien, justement, pour l'idée dans ces cours-là, avec des groupes. Alors, notre travail là-bas va être l'enseignement, le mentoring ou coaching, et aider dans la coordination des cours. Au Honduras, au Guatemala, en El Salvador, et possiblement, parce qu'on demande pour cela en Nicaragua et Panama aussi, on ne sait pas jusqu'où ça peut se répandre. Le besoin est grand. Nous espérons arriver au Honduras en octobre. La condition, évidemment, c'est que le soutien financier soit rendu au niveau exigé. On m'a dit dernièrement qu'on avait besoin d'environ 1 000 $ de plus par mois. Alors, on peut prier pour ça. Alors, on apprécie beaucoup vos prières. C'est ce dont on a besoin surtout, c'est que Dieu puisse nous fortifier, nous appuyer, nous garder. Des sujets pour la prière, j'ai pas écrit là, mais oui, comme j'ai mentionné, le côté financier. Priez, par exemple, que nous ayons la flexibilité pour être capable d'apprendre de nouvelles choses. On est encore à l'école. J'ai 61 ans, alors je commence à apprendre. Et puis, on est encore à l'école, hein, vraiment. Et il y a du nouveau. Ça va être un nouveau genre de ministère pour nous. Et c'est excitant. Mais priez que le Seigneur nous donne cette capacité. La sagesse avec les gens aussi. C'est encore une autre culture. Il travaille 18 ans en Espagne. On dira que c'est une autre culture. On sait que c'est différentes cultures en France, en Afrique, comme le Congo, et ici au Québec. C'est des cultures totalement différentes, même si ça parle la même langue, n'est-ce pas? La même chose, Honduras et l'Espagne, culture totalement différente. Alors, on a été exposés quelques fois. On est allé passer une couple de semaines, 5 fois, là, ou 4 fois, puis 3 jours une autre fois. On apprend, mais quand même. Alors, ça va prendre une adaptation. On va avoir besoin de la sagesse de Dieu. Priez aussi pour la protection. C'est un pays extrêmement violent. Pas parce qu'il y a une guerre civile ou rien de même. C'est simplement la violence criminelle. Les gens sont désespérés. Ils sont abusés. Abusés par nous ici dans le Nord. Où on va établir nos compagnies là-bas. On les paye 35 à 50 piastres par semaine. Ils travaillent des longues semaines, ils travaillent dur, puis ils voient leurs enfants mourir de dénutrition quand même. Ça, c'est frustrant. Ça cause un désespoir, un manfoutisme, et puis pour quelques-uns, ils tournent à la criminalité et la violence, et la valeur de la vie pour quelques-uns perd quelque chose. Okay? Alors, priez pour ça, et que Dieu puisse nous utiliser, surtout dans la vie de ces pasteurs, des grands groupes de pasteurs qui veulent vraiment travailler, avancer, apprendre. Maintenant, on rentre dans la parole de Dieu. Confie le dépôt. Vous savez, il y a un Mexicain qui fait partie de l'orchestre philharmonique de Mexico City. et je rentre dans un domaine où je suis totalement, mais totalement ignorant. Mais alors, je vais citer ce qu'il a dit. Bien, il a dit que les meilleurs instruments de bois sont faits d'un bois qui a pu vieillir naturellement afin d'enlever toute humidité. Il faut vieillir le bois pendant 80 ans, dit-il, et ensuite, avant de créer l'instrument. Et ensuite, il faut jouer l'instrument pendant un autre 80 ans avant que cela atteigne son plus beau son. Ça, c'est Luis Antonio Rojas qui a dit ça. Donc, il ajoute, l'homme qui crée l'instrument doit utiliser un bois qui a été coupé et préparé par un autre d'une autre génération, et il ne verra jamais lui-même un instrument atteindre son sommet durant sa propre vie à lui. Alors, ça, c'est le cas avec des instruments à bois. Encore plus, est-ce que c'est le cas avec les instruments en chair et en os? Quand on parle d'évangélisation, on s'attend à voir des résultats quand? Maintenant. Et on a raison. Quand on parle de formation, on parle de quelque chose de beaucoup plus long terme. On peut dire, oui, mais pourquoi penser à des générations à venir si le Seigneur est à veille de venir? Bonne question, n'est-ce pas? Après tout, il était supposé venir au mois de mai, puis il était supposé venir au mois d'octobre. Le Seigneur pourrait venir avant la fin de la journée. Qui sait? Mais ça pourrait aussi prendre plus de temps que ça. Ça, c'était l'attitude de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, il attendait la venue du Seigneur. Mais il a préparé pour que nous puissions être encore ici en l'an 2011. N'est-ce pas? Alors, lisons le texte que nous avons ici devant nous, dans 2 Timothée chapitre 2, 1 et 2. De Timothée, chapitre 2, et versets 1 et 2. Où il dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ce verset commence avec deux mots significatifs. Il dit, « Toi donc. » En plaçant le mot « toi » tout au début de la phrase, Paul ajoute une emphase à la responsabilité de Timothée. C'est trop facile d'excuser notre irresponsabilité en ce qui concerne l'importance d'être des disciples fidèles qui font l'œuvre du Seigneur. Avez-vous déjà entendu, je sais que vous l'avez jamais dit, mais avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « il faudrait bien que quelqu'un... » Hein? Peut-être vous l'avez dit aussi, hein? Il faudrait bien que quelqu'un fasse telle chose, n'est-ce pas? Il faudrait bien que quelqu'un... une expression hérétique. Une expression horrible. On compte sur quelqu'un. L'apôtre Paul disait à Timothée, il disait pas à Timothée, il faudrait bien que quelqu'un se fortifie. Hein? Dans la grâce du Seigneur. Il dit, toi donc. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Toi donc. Le donc, c'est justement à cause de, bon, bien, si jamais vous étudiez le premier chapitre, j'espère que vous le ferez, alors vous verriez toute la présentation de l'Évangile, la présentation du grand message que nous avons, la responsabilité que nous avons, le privilège, les difficultés, les oppositions, tout ça, c'était dans le premier chapitre. Ce grand dépôt que le Seigneur nous a donné. Alors, il a dit, « Toi donc, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Nous devons être forts. Nous devons être forts dans la grâce du Seigneur et il y a un but pour ça. Alors, tu sais, ce gars-là, il est très fort, ça fait un show et ça paraît bien. Mais ça, c'est pas la raison, le but dans lequel nous devons être forts. Il y a un autre, lui, il a un but. Un but pour sa force. C'est bien pratique. Hein? Y en a-tu ici qui auraient aimé avoir de la force de même quelquefois? Hein? Et à manque de ça, bien, moi, j'ai le CAA parce que j'ai pas les muscles comme ça. Il y a eu des fois que j'aurais été bien content hein, de pouvoir faire ça. Part de ça, ça aurait été impressionnant. Lise aurait dit « wow ». Mais alors, mais on n'est pas fort sans but. La force, juste pour la force, qu'est-ce que ça donne? Mais Paul avait un but pour la vie de Timothée. Et je crois que le Seigneur a un but pour nos vies. Et c'est pour ça qu'il veut que nous soyons forts. Paul avait un but. Paul a investi, on peut juste continuer jusqu'au temps que ça finisse l'image. Paul allait investir en Timothée. Timothée allait investir dans des hommes fidèles et capables. Et ces hommes fidèles et capables allaient pouvoir investir encore dans d'autres. C'est ce qu'il dit au verset 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alors, pour pouvoir faire cela, bien, ça exige certaines conditions. Cette mission que Dieu nous donne exige une condition. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Nous ne pouvons pas passer à d'autres ce que nous n'avons pas reçu. Dans le premier chapitre, au verset 13, il parle du modèle de saine parole. Dans le verset 14 du premier chapitre, Paul fait allusion du bon dépôt, le garde le bon dépôt. Il gardait parce qu'il avait reçu. Il avait reçu le modèle de saine parole. Est-ce que tu l'as reçu? Pour pouvoir accomplir la mission du verset 2 dans 2 Timothée 2, tu as besoin d'avoir reçu quelque chose. Tu as besoin d'avoir quelque chose à passer à d'autres. As-tu quelque chose à passer? As-tu reçu les saintes paroles? As-tu reçu le bon dépôt de Dieu? L'évangile et le message? As-tu reçu de la formation? Est-ce que tu as cherché à apprendre? Est-ce que tu continues d'être à l'école de Jésus? Es-tu prêt à apprendre d'autres personnes? Est-ce que tu profites de toutes les opportunités que tu as de pouvoir apprendre? Il y en a qui disent « je suis bien trop jeune ». C'est le meilleur temps d'apprendre. Il y en a d'autres qui disent « je suis bien trop vieux ». Bien, je sais pas là, mais le jour que j'arrête d'apprendre, que le Seigneur vienne me prendre. On n'est pas trop vieux. On est toujours en train d'apprendre. Cherchons à profiter de toutes les occasions. Et tu l'as reçu en présence de beaucoup de témoins. Juste en passant, une des preuves qu'une doctrine est digne de foi, c'est que celui qui enseigne est prêt à l'exposer publiquement aussi bien qu'en privé. Avez-vous déjà entendu quelqu'un venir dire, tu sais, j'ai appris quelque chose de nouveau dans la parole, mais je vais le partager avec toi, mais parle-en pas à personne pour le moment, OK? As-tu déjà entendu quelque chose comme ça? Si jamais quelqu'un s'approche de toi comme ça, là, fuis! Fuis! Parce que la vérité de Dieu n'est pas un secret. Et quelqu'un qui veut venir faire ça en secret, il y a quelque chose de louche. D'accord? La plupart des sectes refusent de faire ça publiquement. Ils préfèrent des initiations secrètes. Maintenant, ce que tu reçois, c'est pas en secret, c'est public. Ce que tu reçois, oui, il y a du personne à personne, évidemment. Hein? Mais tu reçois, tu apprends des individus tout seuls et tu apprends ce qui est enseigné publiquement, mais tu en profites. Tu te fais préparer. Tu te fais former pour pouvoir en donner à d'autres. Timothée a été préparé. Et la préparation précède toujours la présentation. Passant. Jean-Baptiste, il a pris bien des années de préparer avant de pouvoir présenter. Jésus même, s'étant vidé des avantages qu'il avait, si on peut dire, de sa divinité, même s'il a demeuré Dieu et continuait d'être Dieu tout le temps. Alors, comme homme, il y a eu 30 ans de préparation avant de commencer son ministère public. Nous avons besoin de nous préparer. Et c'est seulement en permettant que l'Esprit de Dieu nous aiguise et nous prépare, nous aiguise nos vies, que nous aurons ce coupant que Dieu peut utiliser dans sa main habile. Maintenant, la mission de Dieu implique un processus. Confie-le à des hommes fidèles. Il y a deux mots essentiels dans cette phrase. Timothée doit prendre ce que Paul a versé dans sa vie et le laisser déborder dans les vies des autres. Alors, on peut continuer? Oui, deux mots essentiels. Le premier mot, c'est « confie ». Confie. Alors, ce mot « confier », c'est le même mot, la même racine que le mot « dépôt », »,« garde le bon dépôt » dans chapitre 1, verset 14. C'est intéressant, ça. Quand tu déposes de l'argent à la banque, es-tu en train de leur donner ton argent? Y en a-tu qui ont l'impression qu'ils donnent leur argent quand ils déposent de l'argent à la banque? Je vous assure, c'est pas le cas. Vous l'avez pas donné. Vous l'avez confié. Dieu vous a donné un dépôt. L'Évangile. Ensuite, il vous a donné l'autre dépôt. Il vous a donné le dépôt de formation, le niveau de formation que vous avez déjà reçu. L'enseignement que vous avez reçu, c'est un dépôt. Ça veut dire qu'il vous l'a confié. Il vous l'a pas donné. Il vous l'a confié. Mais, comme quand je donne mon argent à la banque, je le confie pour qu'il fasse quelque chose avec, puis il me donne mon 0.5% d'intérêt. Hein? Si j'en ai mis assez, puis je le laisse assez longtemps. Mais Dieu t'a confié une formation, un enseignement, les vérités, l'Évangile, dans un but aussi. Pour que tu le passes à d'autres. Tu le passes à d'autres. Tu as un privilège extraordinaire que Dieu t'a confié. Sois fidèle avec ça. C'est pas donné, c'est confié. Vous savez, la question brûlante un jour ne va pas être combien de connaissances avais-tu? Ça veut dire, qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu savais? Et c'est pour ça que la grande commission d'y aller, leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai commandé dans Matthieu 28, 18 à 20. Le deuxième mot clé ici, c'est fidèle. Et on ne s'implique pas intensivement à déposer la parole éternelle de Dieu dans la vie de simplement n'importe qui. Ils doivent se montrer dignes de cet investissement éternel. Ça choque-tu? Je parle pas de l'évangélisation. Jésus, en ce qui concerne l'évangélisation, Jésus a dit de mettre la semence dans les quatre terres. Il y en avait juste une bonne. Mais dans les quatre terres, on met la semence. On donne l'Évangile à tout le monde. Mais la formation, il faudrait que la personne montre qu'il veut être formée. Il faut que la personne montre qu'il est fidèle dans ce qu'il a déjà. N'est-ce pas? Pour qu'on prenne la peine de former. On dit, s'il te plaît, viens te faire former. Excuse-moi, mais c'est pas de même, ça marche. C'est que t'as le privilège de te faire former, t'as le privilège d'apprendre de moi si je te vois fidèle. C'est plutôt comme ça, n'est-ce pas? Et en autre mot, c'est pas comme l'école publique. C'est comme l'université. On est des adultes. L'école publique, tout le monde est obligé d'aller à l'école. L'université, tu appliques pour entrer. Faut montrer que t'as quand même fait un effort à quelque part. Notons que le prérequis, c'est la fidélité ici. C'est pas l'éloquence, c'est pas le charisme, c'est pas l'intellect, c'est pas le talent. Ce sont des choses-là qu'on a tendance à capter notre attention dans les milieux chrétiens trop souvent. Mais ce qui capte l'attention de Dieu, c'est simplement la fidélité. Il y a aucune limite aux choses que Dieu peut faire avec et à travers un croyant qui est vraiment fidèle. Es-tu prêt à payer la dévotion, le prix d'une dévotion suprême à Christ et à son œuvre? D'être fidèle? Ou est-ce que tu veux être satisfait d'une vie de médiocrité, de complaisance en ce qui concerne les choses qui comptent pour l'éternité? Maintenant, c'est bien, la mission de Dieu exige certaines conditions et la mission de Dieu implique un processus. La mission de Dieu produit aussi un résultat. Parce que ce qu'il dit ici, dans ce texte, Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ah, c'est extraordinaire. Si tu fais ce que tu as à faire, ça va continuer, ça va continuer. Ça va pas s'arrêter là, ça va se répandre. Et c'est pour ça que toi et moi, nous sommes aujourd'hui ici, parce que c'est le principe qu'ils ont suivi. C'est le produit final du processus de faire des disciples. Si c'est bien fait, cela va produire des guerriers pour la foi qui vont sortir dans la bataille pour les âmes des hommes. Ils s'impliquent eux-mêmes dans le travail d'équipe encore, d'équiper encore d'autres guerriers pour ce conflit. Et c'est ainsi que la reproduction, la multiplication spirituelle se met en marche. Un processus qui a le potentiel d'accomplir le premier commandement qui a été donné aux hommes. Savez-vous qu'est-ce que c'était le premier commandement donné aux hommes? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Évidemment, ça avait un sens physique, purement. Dieu parlait là de la reproduction physique pour remplir la terre. Mais ce processus est aussi la clé pour accomplir le dernier commandement donné aux hommes avant l'ascension de Jésus. Plus clair encore, dans Matthieu 28, 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment est-ce que 12 hommes ou 11 hommes vont aller faire de toutes les nations des disciples? Écoutez, soyons réalistes, c'est pas possible ça. C'est ridicule d'y penser. Ah, ils avaient des choses. Le Saint-Esprit, Jésus avait dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ils avaient une méthode. La méthode que Paul donne à Timothée. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et c'est ça qui a fait la différence. C'était pas juste l'évangélisation. C'était la formation aussi. La formation. Tellement important. C'est important de noter que ceux qui enseignent aussi à d'autres doivent être capables de le faire. Le mot pour capable, ça veut dire digne, qualifié, adéquat. Ça veut dire ça que des croyants qui ne sont pas formés, qui ne sont pas qualifiés, ils ne devraient pas être placés dans des positions pour enseigner. De nos jours, des fois, on pousse trop souvent des croyants dans un service pour lequel ils n'ont pas eu la formation. À cause de notre préoccupation pour des chiffres, la quantité, on remplit souvent des trous avec des individus qui ne sont pas capables ou prêts à les remplir. Maintenant, on n'attend pas à ce que les gens soient capables. On les forme pour les rendre capables, n'est-ce pas? On les forme pour les rendre capables d'enseigner aussi à d'autres. Savez-vous que pas dans l'espagnol de l'Espagne, mais dans l'espagnol que j'ai appris au Honduras, le mot formation, savez-vous quelle expression qu'ils utilisent? Capacitation. J'aime bien ça. La capacitation. C'est rendre capable. Ça fait du bon sens, hein? Ça dit que c'est ça qui est le fun avec différentes langues. On apprend un autre angle d'une vérité. Rendre capable, c'est ça la formation. C'est pas juste de donner quelque chose gratuitement comme ça. Oui, dans nos églises, on fait ce qu'aucun homme, bon homme d'affaires ferait dans son commerce, sacrifier la qualité pour la quantité. La méthode de Dieu, c'est le contraire. Nous avons besoin de fixer nos yeux sur le fait de produire du travail de qualité et Dieu va s'occuper de la quantité. On fait ça par le moyen de la formation. Un engagement vers la qualité va produire éventuellement la quantité. Mais un engagement vers la quantité, ça va finir par produire la médiocrité. Paul ne dit pas à Timothée exactement comment il doit procéder pour accomplir tout ça. Il peut avoir beaucoup de différentes méthodes légitimes selon le contexte, le caractère des personnes à qui on a affaire. Mais ce qu'il faut souligner, c'est le principe. N'importe comment que c'est fait, aussi longtemps que ça soit fait, cette formation d'autres personnes pour faire ce que nous avons appris à faire. Et cette formation continue et continue. Et savez-vous où ça se fait, cette formation-là, en passant? La meilleure place où ça peut se faire? Direct ici, dans l'église locale. Je crois que la formation basée dans l'église locale est une formation réellement efficace. Quand on veut être formé et quand on veut prendre le temps de former quelqu'un d'autre. As-tu appris à faire quelque chose? As-tu déjà appris à faire quelque chose? Bien, tu peux enseigner quelqu'un d'autre à le faire aussi. C'est aussi simple que ça. Hein? C'est aussi simple que ça. On dit, oui, mais je suis pas un prédicateur, je suis pas un ci, je suis pas un ça, je m'appelle pas Billy Graham. Non. Mais as-tu appris à faire quelque chose? Tu peux enseigner quelqu'un à faire. Alors, l'importance de ce passage dans 2 Timothée 2, 1 et 2 pour nos vies, on peut pas l'exagérer vraiment. C'est vraiment la vie qui dure, puisque par elle, nous donnons nos vies à ce qui dure toujours. La parole de Dieu et les âmes des hommes. Timothée devait devenir un pont par lequel la parole de Dieu, hein, ce que tu as entendu, pouvait envahir les âmes des hommes. Confie-le à des hommes fidèles. Il devait s'impliquer à commencer une avalanche spirituelle dont la force se sentirait pour des générations au-delà de sa propre vie. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Et toi, cherches-tu quelque chose qui va donner un but pour ta vie? Ces deux versets donnent la clé pour ouvrir la porte vers la plénitude que tu cherches. En engageant ta vie à la parole de Dieu et les âmes des hommes, tu peux expérimenter la satisfaction profonde de savoir que ta vie est bien dépensée. Parce que l'influence de ta vie va se ressentir longtemps après que ton corps terrestre soit disparu. Comme Abel, on pourra dire de toi, il parle encore, quoique mort. Le samedi de la semaine passée, j'étais présent au funérail de quelqu'un qui m'avait apporté de quoi. Elle m'avait partagé ce qu'elle avait reçu. Marianne Petitclerc était à l'école biblique avec moi pendant 3 ans. Et c'était un peu comme une grande sœur. Elle avait quelques années de plus et beaucoup d'expérience de plus dans la vie chrétienne. Et je pense à elle quand je pense à ce texte-là. Il parle encore, quoique mort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des croyants productifs aujourd'hui parce que Marianne s'était investie en eux. Qu'est-ce que toi et moi, nous allons faire dans l'œuvre de Dieu? Nous avons chacun notre part. Que le Seigneur vous bénisse.